À présent,
Frédéric Worms.
À présent, ce soir, les jeunes et les vieux, comment ne pas les opposer? La pandémie a fait apparaître ou réveiller un conflit inattendu entre les générations. Nous allons en parler ce soir avec Anne Muxel et Pierre-Henri Tavoyot. À présent, les jeunes et les vieux, la pandémie a fait apparaître ou a réveillé de manière inattendue un clivage nouveau, ou peut-être ancien, mais qui s'intensifie à nouveau entre les générations. Nous en parlons ce soir avec Anne Muxel, directrice de recherche au CNRS et au CNCOF, et Pierre-Henri Tavoyot, maître de conférence à Sorbonne Université. L'un et l'autre sont spécialistes à la fois de la jeunesse des générations et de la démocratie. Nous en parlons donc avec eux ce soir. Bonsoir Anne Muxel, bonsoir Pierre-Henri Tavoyot, merci d'être là même à distance. Nous sommes dans des conditions un peu particulières, mais je suis très content de discuter avec vous ce soir de ce sujet. Anne Muxel, tout d'abord, est-ce que vous êtes bien en contact d'abord, et est-ce que vous êtes surprise comme moi, comme beaucoup de citoyens en ce moment, par la réapparition au premier plan de votre sujet de recherche, finalement principal, la place de la jeunesse dans notre société politique, dans notre démocratie. Anne Muxel, si vous pouvez nous dire votre sentiment, notre premier sentiment.
Oui, il est vrai que la crise sanitaire entraînée par cette pandémie de Covid-19 a posé la question des rapports finalement entre les générations, mais aussi de la façon dont les générations étaient affectées, en tout cas dans un premier temps, de façon différente par cette épidémie. Et donc, c'est vrai que assez vite est apparue la question d'un risque différencié pour les générations, mais aussi d'une adaptation différenciée, d'une réponse différenciée par les générations face à ce risque. Et les jeunes ont été assez rapidement soupçonnés de ne pas se plier, en tout cas autant que les autres générations et que les aînés, aux gestes barrières, à toutes les restrictions qu'il fallait respecter pour essayer d'enrayer la pandémie. Alors, évidemment, cette question, du coup, a dans un premier temps, et en tout cas, antagonisé un petit peu les générations, même si quand on regardait de près les enquêtes, et notamment quand on demandait aux jeunes s'ils pensaient qu'il était nécessaire de respecter ces restrictions, s'ils avaient d'ailleurs le souci de leurs aînés, bien très majoritairement quand même, les jeunes étaient tout à fait concernés, conscients des risques encourus par l'ensemble de la population. Donc je crois que il faut se méfier de trop antagoniser les générations. Je pense qu'il y a plus de conscience mutuelle et de solidarité qu'on ne le croit. Bon, il n'en reste pas moins vrai que pour des jeunes, le temps de la jeunesse étant un temps d'ouverture, de désir, d'expérimentation, de toutes sortes de mobilité, etc. Évidemment que les restrictions quant au déplacement, quant à la nécessité d'aller vers les autres, de vivre des expériences avec les autres, évidemment, est sans doute plus difficile à vivre et à supporter.
Oui, c'est très frappant, Anne Muxel, en vous entendant, de voir comment la pandémie, dans sa nature médicale, finalement, a fait une distinction entre les jeunes et les vieux, et comment elle se répercute au niveau des précautions sanitaires, mais aussi du débat public. Pierre-Henri Tavoyot, vous-même, vous aviez écrit en 2007, il y a déjà longtemps, en co-écriture, un livre intitulé « Philosophie des âges de la vie », puis toujours en co-écriture, cette fois avec Serge Guérin, 10 ans plus tard, « La guerre des générations aura-t-elle lieu ?» chez Calman Lévy. Vous êtes par ailleurs philosophe de la démocratie aussi, « Comment gouverner un peuple roi ?» C'était votre livre il y a quelque temps chez Odile Jacob, et vous avez aussi un blog et vous publiez prochainement un livre plus général sur la morale de notre histoire. Mais, voilà, comment est-ce que vous voyez, Pierre-Henri Tavoyot, ce retour de votre question, d'une question sur laquelle vous aviez travaillé dans un autre cadre finalement, au cœur de notre démocratie sous la pression de cette pandémie, Pierre-Henri Tavoyau.
Je crois qu'il y a en fait une grille de lecture qui est très tentante. C'est toujours la grille de lecture de la guerre des générations. C'est pas d'ailleurs la seule guerre que nous vivons. Hein. On pourrait dire il y a la lutte des classes déjà ancienne, il y a la guerre des races, il y a la guerre des sexes, il y a la guerre des générations. Et moi, j'ai tendance à voir dans toutes ces guerres qu'on nous annonce une sorte de désarroi intellectuel face à un monde très complexe, et on se raccroche à des scénarios binaires pour tenter d'expliquer effectivement ce qui nous arrive. Alors je crois qu'il n'y a pas toutes ces guerres, que toutes ces guerres n'existent pas, qu'il peut y avoir des conflits ici ou là, mais que ces guerres n'existent pas. Et pour ce qui est de la guerre des générations, elle n'existe d'autant moins que on est tout à fait incapable d'identifier les fronts. Vous parliez tout à l'heure, Anne Muxel parlait tout à l'heure de la jeunesse coupable, mais certains intellectuels parlent aussi de la jeunesse victime. Et c'est en fait, je crois qu'on sera d'accord là-dessus, une sorte de grille de lecture courante. Est-ce que la jeunesse est coupable à l'égard de la société, ou est-ce qu'elle est victime au contraire d'une société qui l'empêche d'entrer dans l'âge adulte? Ce schéma est très ancien, donc c'est pas neuf. Ce qu'il y a de particulier dans la situation que nous vivons, c'est là une loi historique. Dans les crises, c'est en général toujours les jeunes qui trinquent le plus. Il va sans dire que dans les guerres, c'est par définition les jeunes qui sont, comme on dit mal aujourd'hui, impactés, si je puis dire. Et il y a une centaine d'années, c'était déjà le cas. Pourquoi ? Parce que cette période de la vie, c'est la période décisive de la construction de soi. C'est là que l'on fait les rencontres amoureuses, affectives. C'est là que l'on entre dans la carrière. C'est là que voilà. Et donc il y a des années décisives qui, si elles n'ont pas lieu, auront sans doute lieu plus tard. Il faut pas, disons, pour le coup, être absolument tragique et dramatique dans la situation actuelle, mais on voit très bien que c'est une phase de construction de soi qui était déjà compliquée par le passé et qui devient encore plus compliquée. Voilà. Mais autrement, j'allais dire, le débat, comme d'habitude, est-ce que la jeunesse est victime ou est-ce que la jeunesse est coupable?
Mais alors, Pierre-Henri Tavoyau, donc on entend bien que vous maintenez votre diagnostic selon lequel la guerre des générations n'aura pas lieu. Vous disiez la guerre des âges n'aura pas lieu dans votre livre. Vous allez nous expliquer comment peut se maintenir cette guerre, mais ce lien finalement intergénérationnel à travers des mutations aujourd'hui. Mais quand même, pour prolonger ce que vous venez de dire, que la jeunesse est toujours la première impactée, entre guillemets, là, ce dont on a l'impression, justement, c'est qu'en termes, disons, vitaux, en termes médicaux, en termes de mortalité, c'est plutôt quand même, entre guillemets, là aussi, les vieux. Alors vous-même, dans votre philosophie des âges de la vie, vous donnez une sorte de légitimité philosophique, et c'est inévitable, à ces catégories. Au fond, comment est-ce que vous voyez cette fragilité, cette vulnérabilité des vieux? Vous avez écrit sur votre blog un texte que j'ai trouvé très fort, contre l'EHPAD bashing, cette critique qu'on fait des EHPAD qui ont été conçus pour protéger les vieux et qui seraient aujourd'hui des lieux de fragilisation, et qui ont été aussi beaucoup critiqués comme des lieux d'exclusion. Au fond, voilà, il y a quand même l'idée que les vieux sont aussi en première ligne cette fois-ci.
Oui, ben ce sont j'allais dire les deux âges qui sont les moins naturels, la jeunesse et la vieillesse. Donc c'est un peu pour ça qu'ils sont aussi les plus incertains et les plus fragiles. Si vous voulez, à l'âge biologique, il y a deux âges de la vie, il y a l'enfance et l'âge adulte. Il n'y a pas de jeunesse parce que on n'a pas besoin de la jeunesse. Quand on peut procréer, on procrée dans l'âge naturel, à l'état naturel. Et puis il n'y a pas de vieillesse parce que, si je puis dire, on se fait bouffer avant, et la mort arrive avant que la vieillesse soit là. Donc la culture humaine invente deux âges nouveaux, c'est-à-dire la jeunesse, l'adolescence, c'est le moment où je peux procréer mais je n'ai pas le droit socialement, et puis la vieillesse qui sert à plusieurs choses. On a besoin peut-être des hommes vieux pour arbitrer les conflits entre les jeunes adultes, et puis on a peut-être besoin, pardon du caractère un peu idiot de ce que je dis, mais des vieilles femmes pour raconter des histoires et assurer la transmission de de la culture. Bon, pardon, c'est un peu rapide. Mais voilà, ces deux âges sont inventés, sont les âges culturels. Ce qui caractérise notre monde contemporain, c'est que ces
culturel,
deux âges...
Pardon de vous interrompre, Pierre-Henri Tavoyon, oui. Mais c'est culturel, mais aussi un peu médical. C'est aussi le progrès médical qui a permis le
oui, absolument. Absolument. Non, tout à fait. Mais c'est, disons, la culture qui les permet, et justement, la médecine permet de les allonger. C'est-à-dire qu'on a gagné en espérance de vie, on croit toujours qu'on gagne à la fin, mais en vérité, on a gagné en espérance de vie à la fois au milieu et à la fin. C'est que la jeunesse est devenue de plus en plus longue, on entre dans l'âge adulte de plus en plus tard, et peut-être on sort de l'enfance de plus en plus tôt. Et de l'autre côté, la vieillesse s'étale sur plusieurs phases. D'ailleurs, on est parfois en peine de la définir précisément, parce que c'est long, à quel âge devient-on vieux, etc. Et effectivement, les progrès de la médecine permettent d'avoir une vieillesse plus durable. Donc, c'est dans ce contexte un peu de brouillage des âges que ces deux nouveaux âges, âges culturels, qui restent malgré tout assez incertains, on n'arrive jamais tellement à les définir, qu'ils sont les plus, disons, concernés par les situations de crise, notamment sanitaire, à la fois le risque de mortalité et puis cette difficulté dans la construction de soi.
Alors finalement, vous faites un lien entre cette construction culturelle de ces catégories, jeunesse et vieillesse, et leur fragilité aujourd'hui. Anne Muxel, vous qui travaillez en sciences politiques, vous donnez une consistance d'un autre point de vue à ces catégories, vous les construisez au fond par leur place culturelle et politique. Qu'est-ce que vous pensez de l'analyse que Pierre-Henri Tavoyot vient de proposer, le lien entre finalement cette culturalité, cette construction des catégories et leur fragilité aujourd'hui?
Oui, ben je pense qu'en tout cas, dès lors que l'on s'intéresse, par exemple, au rapport à la politique, aux formes de politisation, on voit qu'il y a évidemment des points de divergence d'attitude, de comportement quant à la relation au système politique que l'on peut observer au deux bouts de l'échelle des âges. Mais en même temps, il y a aussi je dirais des points de convergence entre les générations, de l'expression effectivement de préoccupations aussi qui peuvent être communes, et le fait que bien souvent, par exemple, les jeunes générations ne font que grossir, accentuer bon nombre de phénomènes que l'on peut observer dans la relation au système politique dans les autres générations et dans les générations aînées. Par exemple, la question de la défiance qui aujourd'hui, la défiance envers le système politique, envers les institutions, envers le personnel politique, est quelque chose qui est partagé par toutes les générations aujourd'hui, est très présente dans les études que l'on peut mener sur le rapport des citoyens à la politique aujourd'hui. Simplement, ce n'a pas les mêmes conséquences selon les générations, parce que par exemple, les jeunes qui entrent en politique, qui font leur premier pas de citoyens actifs, effectivement, dans ce contexte de forte défiance, ça ne va pas avoir les mêmes conséquences sur leur construction de citoyens, sur la façon dont ils vont faire des choix ou des non-choix du reste, dont ils vont s'engager ou ne pas s'engager, dont ils vont voter ou rester en dehors de la décision électorale. Donc on voit bien que là, il y a à la fois des effets de période très forts qui impactent toutes les générations, mais il y a aussi après des spécificités générationnelles qui sont liées à la temporalité, au moment historique dans lequel une génération entre, par exemple, en politique.
Je voudrais d'abord, peut-être avant de développer, je voudrais qu'une question de définition, Anne Muxel, parce que on va revenir sur la notion de génération, mais dans un de vos articles, il me semblait que ça rejoint ce que disait Pierre-Henri Tavoyot et votre approche aussi de l'engagement politique, d'entrée en politique. La définition que vous donniez des jeunes, il me semblait très intéressante, était entre la sortie du système scolaire vers 20 ans et l'entrée dans le monde du travail vers 27 ans. Et ça confirme à la fois ce que vous disiez et ce que disait Pierre-Henri Tavoyot. C'est-à-dire qu'il y a dans nos démocraties, une sorte d'espace qui s'ouvre, qui est un espace de création, de constitution de soi, mais peut-être aussi de fragilité, de précarité. Et peut-être qu'il en est de même du côté de la vieillesse. Mais pardon de vous avoir interrompu et garder cette question pour plus tard si vous préférez.
Oui, parce que je voulais reprendre sur la Covid-19 et par rapport à cette pandémie, il semblerait que dans un premier temps, alors qu'on a bien opposé la façon dont cette pandémie pouvait affecter les jeunes et les vieux, il semblerait que les choses se retournent aujourd'hui, si l'on en croit effectivement les enseignements des médecins, et que la pandémie et cette maladie est en train d'affecter de plus en plus de jeunes. Et donc là, il y aurait aussi une expérience commune hein, qui serait partagée face à cette nouvelle maladie entre les générations. Je crois qu'il y a aussi des choses qui sont en train de changer de ce côté-là. Alors, par rapport à votre question...
Oui, pour la question de la définition, parce qu'on reviendra ensuite sur voilà. cette question de la pandémie et la façon dont certains, finalement, on va y réfléchir, à réveiller un peu ce conflit des générations. Mmh. Mais sur des questions de définition, en effet, soulignait Pierre-Henri Tavoyau, la jeunesse, finalement, c'est quand même quelque chose d'assez vague, apparemment, mais vous-même, vous donnez un sens très précis, finalement, à cette catégorie.
J'étais tout à fait d'accord avec Pierre-Henri Tavoyau lorsqu'il disait que la jeunesse et la vieillesse ont en commun une relative indéfinition de leur borne d'âge. Et c'est vrai que ce sont des périodes et des périodes qui se sont singulièrement allongées finalement hein, dans cette redéfinition des âges de la vie. Et ce sont des périodes qui se sont allongées et qui sont en même temps relativement indéterminées quant au seuil d'âge. Alors pour en revenir à la définition, une définition de la jeunesse, on peut retenir d'abord que c'est un temps de transition, c'est une période de la vie dont les bornes d'âge se sont allongées. On va dire que bon an mal an, c'est une quinzaine d'années finalement le temps de la jeunesse, et c'est vrai que on rentre dans la condition adulte supposant une autonomie par rapport à un certain nombre d'attributs que sont la possibilité d'habiter dans un lieu à soi, de fonder un couple, une famille, d'avoir une autonomie financière, d'avoir surtout accès à un métier, à un travail correspondant à ses compétences, à sa formation. Donc on voit bien que tout cela, tous ces seuils et tous ces passages sont relativement déconnectés les uns des autres, hein, ça je renvoie aux travaux notamment d'Olivier Galland sur ces questions, déconnectés les uns des autres et surtout s'acquièrent de plus en plus tard, hein, s'acquièrent de façon déconnectée de plus en plus tard. Et d'une certaine façon, on a aussi probablement une forme de déconnexion qu'il faudrait étudier. Moi, je n'ai pas particulièrement travaillé sur le temps de la vieillesse, mais je crois aussi que l'on rentre dans le temps de la vieillesse de façon beaucoup plus indéterminée, dans une période vague, avec des seuils qui ne sont pas forcément connectés les uns les autres entre le moment où on va quitter le monde du travail, le moment où on va et donc passer à connaître la retraite, mais aussi on peut connaître des retraites actives, rester quand même actif par rapport à d'autres formes de la vie sociale, etc. et sans compter les progrès de la médecine et de la santé qui font que on peut retarder l'âge du grand âge et du basculement dans toute autre chose. Donc je crois que c'est intéressant de mettre en parallèle ces deux âges sur leur similarité de ce point de vue-là.
Alors oui, c'est ce qui explique leur indétermination, explique peut-être leur vulnérabilité. Pierre-Henri Tavoyau, Anne-Michel vient d'évoquer finalement, et c'est central dans votre travail aussi, entre la jeunesse et la vieillesse, les catégories de l'âge adulte, employer la notion d'autonomie, c'est au cœur de votre travail. C'est un point d'articulation d'ailleurs, Pierre-Henri Tavoyau, il me semble, hein, entre votre philosophie des âges de la vie et votre philosophie de la démocratie, cette question des adultes entre les deux, cette question de l'autonomie qui fonde finalement, peut-être par rapport aux deux autres âges, à la fois un point commun et un point de médiation. Comment est-ce que vous l'interprétez aujourd'hui? Est-ce que c'est par là qu'il faut passer aussi pour réconcilier les générations?
Alors oui, enfin, je trouve que la définition d'Anne Muxel est très très éclairante et parfaite d'insister sur cette jeunesse comme âge de transition. En effet, effectivement, Olivier Galland ajoute, sociologue de la jeunesse tout à fait passionnant à étudier, une phase d'expérimentation, c'est-à-dire que la jeunesse c'est ce moment où on teste, on tente les choses, et c'est ça qui est concerné par la crise aujourd'hui, c'est la phase d'expérimentation et se trouve un peu coupée couper dans son élan. Et ça, c'est vraiment très douloureux parce que c'est cette période. Oui, mais c'est vrai que pour ma part, je pense que pour bien comprendre, et c'est ça sans doute ce qui explique la dimension, peut-être l'impression de brouillage des âges qu'on peut avoir aujourd'hui, cette grande indétermination de ce qui était jadis dans les sociétés traditionnelles extrêmement claires. Les phases de la vie étaient bien identifiées, entrecoupées de rites de passage qui faisaient basculer d'une période, les rituels, voilà, d'une période à l'autre. Tout ça a été très clair. On a l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes un peu perdus sur le chemin de la vie, sans carte ni boussole, avançant un peu à l'aveugle, avec des régressions, des retours en arrière. Et je pense qu'au cœur de cette dimension, il y a effectivement le grand oublié des âges de la vie. On parle beaucoup de l'enfance, de la jeunesse, de la vieillesse, du grand âge, mais on oublie l'âge adulte. En fait, il me semble que c'est à reconquérir ce qui existe dans nos expériences, à vrai dire. Cette image de l'âge adulte qu'on doit travailler pour justement se convaincre qu'il n'y a pas de guerre des générations, se convaincre aussi que nous aspirons à être des adultes et d'ailleurs aussi à bien voir que le jeune, bien sûr, est très content d'être jeune, incontestablement, mais comme c'est une période de transition, la jeunesse ne se définit que par définition à l'âge adulte. Et que la vieillesse, ce n'est pas la fin de l'âge adulte. C'est ça le grand défi de la vieillesse, c'est de continuer à être adulte envers et contre tout. C'est pour ça que la dépendance nous fait tellement peur et tétanise absolument à la fois les politiques publiques et les destins individuels, parce qu'on a le sentiment qu'avec cette dépendance qui est en ligne de mire, c'est pas simplement, comme le dit très bien, l'été indien de la vie, comme dit Pascal Bruckner, c'est une belle formule, mais que la vieillesse, c'est vraiment le fait de détricoter tout ce qu'on a laborieusement construit au cours d'une existence, c'est-à-dire, voilà ma définition de l'âge adulte, à la fois l'expérience, un certain rapport au monde, la responsabilité, un certain rapport aux autres, et puis l'autonomie, c'est-à-dire un certain rapport à soi.
Présent.
Frédéric Worms.
À présent, ce soir, les jeunes et les vieux, ce clivage que la pandémie semble avoir réveillé, renoncé, parfois de façon conflictuelle. Nous en parlons ce soir avec Anne Muxel, directrice de recherche au CNRS et au CESIPOF, et Pierre-Henri Tavoyot, maître de conférence de philosophie à l'Université de Paris-Sorbonne. Anne Muxel, on parlait avec Pierre-Henri Tavoyot de cette place des adultes entre les jeunes et les vieux. Il y a quand même aussi certains adultes, ou en tout cas dans le regard de certains jeunes, qui fragilisent aussi cette relation, cette tension dans ce conflit actuel. Vous avez écrit un article que je vous remercie de m'avoir transmis dans un livre au titre intéressant, le Dictionnaire de la connerie politique, et j'ai trouvé ça très, très, très fort. Un article où vous expliquez quand même que la guerre des générations court le risque d'être relancée et que les jeunes s'adressent aux générations précédentes, aux générations dites du baby boom, de façon critique et peut-être, au fond, Voilà, je voulais savoir ce que vous pensiez de ce rapport aux adultes qui devient un petit peu tendu, mais aussi que certains idéologues semblent prendre plaisir à antagoniser, comme vous disiez tout à l'heure. Et voilà, donc sur cette question de ces relations entre les âges aujourd'hui, il y a beaucoup de dangers politiques, Anne Mixel.
Oui, il s'agit d'un article, enfin d'un chapitre de ce dictionnaire de la connerie politique qui est dirigé par Jean-François Marmion et qui vient d'être édité et publié par Sciences Humaines, et qui réunit beaucoup de contributions sur ce sujet, effectivement, un peu.
C'est combien de pages?
C'est un dictionnaire, oui, quand même, assez épais, mais enfin, je vous encourage à le regarder parce qu'il y a beaucoup de contributions.
La connerie politique, voilà, est quand même un sujet inépuisable.
Absolument. Donc, je vous encourage à regarder ce livre qui vient de sortir aux éditions Sciences Humaines. Mais, moi, j'avais effectivement pris cette question, cette entrée par les âges et par effectivement cette expression qui est devenue qui s'est répandue notamment chez les jeunes et sur les réseaux sociaux, qui est OK boomer, c'est-à-dire une façon de renvoyer la balle aux baby boomers, à toute la génération d'ailleurs qui est aux commandes et qui pilote le pouvoir politique d'une certaine façon dans le monde occidental, et au travers de cette expression dont s'est saisie une jeune députée néo-zélandaise lors d'une assemblée sur la question du réchauffement climatique, et où elle était interrompue par justement un député aîné, et elle lui a renvoyé effectivement cette expression « OK boomer, vous n'y comprenez rien, à cause de vous, nous allons droit dans le mur et la planète avec nous ». Donc effectivement, il y a une sorte de mot d'ordre qui s'est emparé de toute une partie de la jeunesse pour dénoncer.
C'est une expression orale, c'est okay à boomer, l'oral, oui. En anglais, OK you boomer.
OK you boomer, on ne vous croit plus, on ne doit plus vous écouter, oui. Car vos politiques nous entraînent dans le mur, et de toutes les façons, nous, notre génération, c'est à nous de préparer le monde de demain, car c'est ce monde de demain, ce sera notre monde et vous ne serez plus là. Et donc c'est aussi un cri de la part d'une partie de la jeunesse qui demande à être reconnue par effectivement toute une classe politique qui ne prend pas suffisamment en compte les visions, les demandes, les préoccupations d'alerte. Donc voilà, il me semblait qu'au travers de cette expression, on mettait en scène effectivement un type de relation. Alors effectivement, dans le champ politique, entre les plus jeunes et les plus vieux, avec cette question de la passation et de la préparation par les plus vieux du monde de demain dans lequel vivront les jeunes.
Oui, c'est très frappant, Anne Mixel, dans ce que vous venez de décrire, à la fois la première personne du pluriel dans cette interpellation à l'Assemblée en Nouvelle-Zélande, nous, et puis cette interpellation finalement des autres comme boomers. Pierre-Henri Tavoyot, vous qui travaillez sur la démocratie aussi comme Anne Mixel, et on va essayer de voir comment elle peut cadrer cette relance du nous et du eux. Comment est-ce que vous prenez, vous, cette si on vous traitait de boomer, Pierre-Henri Tavoyot, comment est-ce que vous répondriez?
Alors, je répondrais, ben oui, chiche, bien sûr, mais parce que d'une certaine façon, c'est aussi grâce à cette génération de boomers que ces jeunes sont sur leur téléphone portable et sont voilà. Donc en même temps, on va pas reprocher à la jeunesse son ingratitude. J'allais dire que ça fait partie du concept. Les jeunes sont ingrats. C'est ce que disait déjà Aristote dans la rhétorique. Donc c'est pas nouveau. Non, simplement, en fait, si c'était que de l'ingratitude, ce serait à la limite assez raisonnable. Non, en fait, c'est pas que de l'ingratitude, parce que ce qui me paraît, je crois que Anne Mixel partage ce sentiment, me semble-t-il, il s'agit de quelque chose qui est en fait assez largement manipulé à des fins politiques. C'est-à-dire que si c'était les jeunes contre les vieux, ça irait, mais en vérité, ce n'est pas que les jeunes, parce que pour quelques icônes éco-jeunes, et on pense à Greta Thunberg notamment, combien de vieux militants rouges, roses ou bruns qui sont devenus opportunément verts avec l'âge. Donc il y a aussi là un recyclage politique critiques des vieux en peine de cause qui se disent aujourd'hui c'est quoi l'idéologie porteuse pour faire de la politique aujourd'hui, c'est certainement plus le rouge, le brun ou le rose, mais c'est le vert. Et donc j'allais dire qu'il y a là non pas du tout une fracture générationnelle, parce qu'en vérité la préoccupation environnementale concerne la totalité des générations, et c'était ça qui est très spectaculaire, c'est que toutes générations confondues, nous avons pris conscience des plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Je pense à ma mère ici, 93 ans, de l'impératif environnemental. De la même manière que l'on dit qu'il y a une fracture numérique entre la génération Internet et la génération qui ne l'est pas, mais en vérité, c'est assez faux. C'est la totalité de la population et des générations qui, en même temps, sont entrées dans le monde du numérique. Et s'il y a des fractures qui demeurent, elles ne sont pas du tout générationnelles. Elles sont plutôt sociales, territoriales, mais en vérité très peu générationnelles. Donc il y a là, si c'était de l'ingratitude, ce serait à la limite presque le signe qu'il y a encore des générations, mais il ne s'agit pas d'ingratitude, il s'agit là d'un mouvement politique bien construit, un véritable projet qui consiste à dire que voilà, il y a eu un mode de vie, c'est pas une génération, il y a un mode de vie qui est coupable, capitaliste, démocratique, pour aller vite, et puis il y a un mode de vie rêvé qui serait plus participatif et plus décroissant. Donc l'enjeu et le clivage n'est pas du tout générationnel, il est politique.
Mais alors c'est très important de discuter aussi de l'usage politique et de la manipulation parfois conflictuelle de ces catégories, mais entre les deux, entre l'objectivité des générations, disons, et puis cette instrumentalisation, Pierre-Henri Tavoyau, il y a quand même dans le thème écologique, depuis toujours, en philosophie en particulier, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, qui est ce que Hans Jonas, le philosophe de la responsabilité, appelait la responsabilité pour les générations futures. Il y a une préoccupation malgré tout pour les futures générations. Cette préoccupation est évidemment la préoccupation de tous, mais est-ce qu'il n'y a pas néanmoins de façon légitime un retour de la question de l'avenir pour nos enfants, pour ainsi dire, mais pour nos enfants à tous, même pour les enfants de nos propres enfants? Est-ce que vous pensez quand même que la question de l'écologie n'a pas cette dimension en elle-même?
Oui, je pense que c'est vraiment le point important, c'est-à-dire que la question des générations futures est vraiment ce qui offre aujourd'hui une perspective, alors, j'allais dire enchanté, c'est pas enchanté parce que c'est plutôt le signe de la peur qui marque cette orientation politique, mais ce souci des générations futures est un vecteur politique tout à fait formidable et considérable, c'est-à-dire l'idée que nous travaillons aujourd'hui pour faire en sorte qu'il y ait un environnement satisfaisant demain, éventuellement à réparer un certain nombre de dégâts, assurer, c'est tout à fait juste. Il y a plusieurs manières de l'interpréter. C'est ça le problème. Et c'est pas pour ou contre les générations futures. J'allais dire que celui qui serait contre me paraît voilà, un peu fâcheux. C'est comment l'interpréter. Et on rentre ici dans des débats qui passionnent la philosophie politique contemporaine autour de cette question de la justice intergénérationnelle. C'est-à-dire comment faire en sorte qu'une génération. Vous savez, quand on rentre, c'est ce que dit Axel Gosserie, le grand spécialiste qui est en Belgique de la justice intergénérationnelle. Vous voyez, quand on va dans des toilettes, on a souvent des écriteaux. Veuillez laisser les toilettes dans l'état où vous les avez trouvées en rentrant, ou alors plus encore, veuillez laisser les toilettes dans l'état où vous espéreriez les trouver en rentrant. Voilà, vous remplacez
pour la toilette. Planète, au fond. Ce que vous dites, c'est que les toilettes et la planète.
Voilà, toilette par planète, et vous avez plusieurs modèles possibles. Alors, on les appelle en termes techniques le modèle suffisantiste, il faut que l'état soit suffisant, ou le modèle réciprociste, c'est-à-dire le modèle où on est dans une logique de réciprocité. Tout ça devient très très sophistiqué avec des réflexions pas tout à fait passionnantes. Un peu sophistiquée à mon goût, mais passionnante. Et on a des modèles de justice intergénérationnelle en se disant, voilà. Mais incontestablement, cette idée reste l'idée forte, l'idée clé de la politique de demain.
Alors, justement, Anne Muxel, Pierre-Henri Tavoyau, et j'étais spontanément totalement en accord avec lui, dit que finalement toutes les générations contribuent à cette préservation pour les générations futures en général, mais malgré tout, dans vos articles, et ça revient beaucoup aujourd'hui, alors peut-être que c'est une manipulation, la génération des jeunes d'aujourd'hui, disons, au nom des jeunes de demain se dit parfois sacrifié, se dit parfois perdu, se dit parfois la mauvaise génération. Il y a eu ceux d'avant qui ont profité du boom, il y aura ceux d'après pour qui on travaille, et ceux d'aujourd'hui seraient pris finalement en étau entre ces deux autres âges. Anne Mixel, est-ce que c'est pas ce qu'on entend aussi beaucoup dans ces usages politiques?
Oui, tout à fait. Moi je crois que les jeunes générations, mais les plus anciennes aussi, mais alors pour d'autres encore, pour des raisons quasi biologiques, mais les jeunes générations sont confrontées quand même à une panne d'avenir. Et ça, je crois que ce dont souffrent beaucoup nos sociétés, avec des incidences très fortes sur le rapport à la politique, avec justement le fait que les populismes de toutes sortes se saisissent justement de ce blocage pour proliférer. Mais je crois que justement, la question écologique, elle permet de rouvrir la question de l'avenir, qui depuis quand même un certain temps est assez bloquée. Il y a la panne de l'ascenseur social dont on a beaucoup parlé. Il y a effectivement l'absence de perspective, la difficulté pour les jeunes de rentrer sur le monde, dans le monde du travail. Et puis, du coup, aussi un grand brouillage ou une grande frilosité de la part des politiques, des discours politiques, quels qu'ils soient, pour finalement proposer une direction dans laquelle la société irait, l'idée de progrès finalement même semblerait en panne. Et donc je crois que au travers de la question écologiste dont se saisissent quand même malgré tout beaucoup de jeunes, hein, c'est vrai que c'est une question clé, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Pierre-Henri Tavoyot, mais c'est aussi une voie de politisation pour les jeunes aujourd'hui, depuis quelques années, la question de l'écologie, ça permet de réouvrir l'idée d'un avenir. Vers quel avenir allons-nous ? Et donc avec la question de la préservation des ressources de la planète et des équilibres à trouver pour faire effectivement cohabiter un monde de plus en plus complexe et dépensier quant à ses ressources. Donc là, je crois que l'écologie, en tout cas dans son questionnement politique, oblige aussi les pouvoirs politiques, les gouvernements, quels qu'ils soient, à poser la question de l'avenir. Et ça, je crois que c'est de ce point de vue-là, ça peut être bénéfique.
Oui, c'est ça, au sens où ça peut unifier tout le monde vers un avenir commun. Mais quand même, malgré tout, ce discours sur entre-temps, pendant ce temps, et la pandémie l'a aggravé. Finalement, entre temps et pendant ce temps-là, il y a une génération qui souffre, qui est prise dans l'étau. Ça, vous le décriviez dans votre analyse, dans l'interpellation au Parlement entre les boomers et les voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut passer de ce sentiment d'un sacrifice à un sentiment de participation et de construction de l'avenir, justement, à Bruxelles?
Je crois qu'en tout cas, évidemment, tout le monde ne se saisit pas de cet enjeu pour s'engager, pour participer de façon active aux décisions politiques. Il y a effectivement toute une partie de la jeunesse qui peut se mobiliser, mais il y a aussi toute une partie de la jeunesse qui se retire ou qui est plus indifférente. Il y a effectivement, dans le rapport à la démocratie qui doit, pour exister, supposer à une certaine un entretien, on va dire, vivant, de la part des uns et des autres, dont les uns et des autres peuvent se saisir. C'est vrai qu'il y a cette menace d'une anomie qui peut pointer aussi, c'est-à-dire d'un retrait des citoyens de toute envie de participer. Et c'est vrai que les jeunes peuvent aussi être tentés, tant la méfiance, tant la défiance, tant le discrédit à l'endroit des gouvernements, des politiques quels qu'ils soient, est entretenu, existe et surtout est entretenu par ces populismes que j'évoquais, et l'exemple américain et de ce qui se passe en ce moment est tout à fait une illustration de ce phénomène. Donc on voit bien qu'on est quand même dans un temps démocratique qui a pu se fragiliser et qui s'est fragilisé un peu partout, et qu'effectivement les enjeux politiques, que ce soit celui du terrorisme, celui de l'écologie, celui de la crise sanitaire, du Covid, de l'immigration, bref, on voit bien que tous ces enjeux peuvent être activés politiquement pour renforcer ou au contraire déstabiliser les démocraties.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver.
France Culture,
à présent.
Frédéric Worms.
À présent, ce soir, les jeunes et les vieux, ce conflit réel ou fictif, réel ou manipulé, qui revient aujourd'hui dans le contexte de la pandémie et de nos crises démocratiques. Nous en parlons ce soir sous le signe de Charles Aznavour, désormais, avec Anne Muxel, directrice de recherche au CNRS et au CEPOF, et Pierre-Henri Tavoyot, qui enseigne la philosophie à Sorbonne Université et qui travaille l'un et l'autre à la fois sur ces questions des âges de la vie et de la démocratie. Pierre-Henri Tavoyot, justement, on parlait avec Anne Muxel juste avant d'entendre Charles Aznavour du contexte démocratique où cette question des jeunes et des vieux revient de manière un peu dangereuse malgré tout aujourd'hui, même si vous êtes l'un et l'autre optimiste. Vous aviez écrit ce livre « Comment gouverner un peuple roi et comment construire un cadre justement pour l'autonomie des citoyens dans une demande un peu tendue aujourd'hui dans nos démocraties ». Comment est-ce que vous voyez justement le contexte dont parlait Anne Muxel, la fragilisation des institutions, la question de la confiance, de la décision, des arbitrages, comme essentiel pour apaiser le conflit potentiel entre les jeunes et les vieux?
Oui, je partage tout à fait l'idée qu'a très bien formulée Anne Muxel sur la question de la panne d'avenir, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation. Alors la démocratie est structurellement en crise, si je puis dire, ça c'est pas nouveau, mais le caractère particulier de cette crise est très paradoxal, c'est que d'une certaine façon la démocratie a souffert, alors on voit si c'est les choses sont en train de changer, ou souffre toujours d'une sorte de mélancolie. C'était une expression de Pascal Bruckner là aussi, mélancolie démocratique, à la fois du fait que elle n'a plus d'ennemis. Je vais préciser ce point en un sens.
Oui, parce que,
il va falloir préciser. Il y en a évidemment quelques-uns qui réapparaissent. Justement, c'est la bonne nouvelle. Non, c'est pas la bonne nouvelle. Mélancolie parce qu'il n'y a plus d'ennemis, et d'autre part parce qu'il n'y a plus d'horizon. Et c'est simplement ces horizons, ce sont aussi le prix à payer des succès de la démocratie. C'est-à-dire qu'elle a réussi un certain nombre de choses tout à fait extraordinaires en termes de pacification des mœurs, en termes de prospérité, même si évidemment la crise économique est notre quotidien, en termes de sécurité, y compris sociale. Et donc les acquis de la démocratie, d'une certaine façon, sont précieux, mais comme toujours, on ne les voit plus parce qu'on s'y est habitué, on s'habitue formidablement et très rapidement au bien, et en revanche beaucoup moins au mal. Et donc il y a une espèce d'accoutumance à voir ce qui était pour nos ancêtres des trésors absolus. Et donc voilà, la démocratie se trouve dans une situation de croisée des chemins où il lui faut effectivement contribuer à retrouver une forme d'avenir. Alors en effet,
pour vous, c'est une crise de croissance finalement. C'est une crise de croissance pour prendre
exactement
la métaphore des âges de la vie. La démocratie elle-même est encore un peu jeune. Et nous passer à l'âge adulte, mais il y a un défi quand même très fort, et justement sur cette question des âges aussi.
il y a un défi très fort et effectivement, cette démocratie doit passer à l'âge adulte. Je suis là encore assez optimiste sur le fait qu'elle y parvienne. Mais voilà, nous apprenons aujourd'hui, parce que pendant très longtemps, nous avons vécu dans une forme d'insouciance et d'innocence, à la fait avec l'idée que le monde entier nous aimait, nous admirait, que d'une certaine façon, la prospérité était un horizon suffisant. Bon, nous découvrons que tout ça ne suffit pas. Voilà, que tout le monde ne nous aime pas et que nous avons même des ennemis, pas forcément d'ailleurs à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, et que l'horizon de la prospérité n'est à l'évidence pas suffisant. Voilà. Et donc il y a une reconquête démocratique sur laquelle nous autres intellectuels devons travailler fortement. La crise des Gilets jaunes en était à bien des égards un signe, avec le sentiment d'une partie de la population qui se sentait totalement reléguée des débats intellectuels, des actes politiques, et qui a produit un cri. C'est pas un cri générationnel. Et en effet, malgré tout, aussi pour la jeunesse, il y a cette grande indétermination, parce que la jeunesse, c'est elle qui construit l'avenir, mais avec cette idée qu'il faut aussi construire non seulement l'avenir, mais l'horizon de l'avenir. Et ça, c'est très, très difficile à élaborer. Et je pense que là, il y a un champ d'investigation et un champ de travail qui est absolument colossal.
Mais alors, justement, je pense, l'un et l'autre, vous serez d'accord pour dire que, au fond, la question des jeunes et des vieux, si elle devient un clivage contre la démocratie, est très dangereuse. Si elle devient un sujet de discussion, de débat à l'intérieur de la démocratie, elle peut parvenir à la renforcer. Donc, Pierre-Henri Tavoyau, ce que vous venez de dire, au fond, comment est-ce qu'on peut transformer une critique externe de la démocratie, même au nom des jeunes ou d'autres cris, comme vous disiez, sociaux, en débat interne et de manière à la renforcer.
Je crois que la jeunesse et la question des âges est vraiment la solution. C'est-à-dire, je pense que ce qui vraiment témoigne de la puissance de la civilisation démocratique et ce qu'il faut que nous, la manière dont nous devons en reprendre conscience, c'est que la civilisation de la démocratie, c'est vraiment la civilisation de la grandeur de l'homme. C'est un peu comme ça, un peu idyllique de dire les choses ainsi, mais ça veut dire. Oui, de l'être humain, on est d'accord, politiquement correct, de l'homme avec un grand H, mais on n'a plus le droit de le dire. Avec cette idée vraiment que c'est dans le cadre démocratique que les humains grandissent le plus et le mieux, pour devenir justement des adultes. C'est la civilisation de l'âge adulte. C'est la civilisation qui dit à tous les êtres humains, quelle que soit leur race, quelle que soit leur ethnie, leur culture, quel que soit leur sexe, leur niveau social, qui leur dit vous êtes des adultes et vous pouvez grandir. Donc je pense que vraiment la politique des âges de la vie, qui est un sujet qui me passionne, est à la fois est vraiment la réponse à apporter. Dans aucune autre civilisation de l'histoire, vous avez cette idée que tout le monde peut grandir, tout le monde peut être grand. Simplement, évidemment, il faut aussi le montrer. Il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Il faut aussi le montrer que c'est pas simplement un doux rêve, c'est pas simplement un horizon lointain et abstrait, que c'est quelque chose de concret. Faire grandir, grandir et faire grandir, c'est vraiment un objectif qui me paraît véritablement enchanteur pour les générations à venir.
Dans ce cadre que vous esquissiez pour reconstruire une démocratie adulte, finalement, quand même, il y a cette question des jeunes doit avoir sa place, c'est-à-dire que la démocratie garantisse et repose sur la maturité des citoyens, c'est une chose, mais elle doit faire sa place. Vous parliez dans votre philosophie des âges de la vie, des façons de protéger la jeunesse, de protéger la vieillesse. Comment faire pour que ce ne soit pas paternaliste, pour que finalement il y ait quand même une place pour la contestation, une place pour la création, une place aussi pour la critique finalement dans la démocratie.
Tout à fait. D'ailleurs, je pense que l'objectif est moins de protéger la jeunesse que de protéger l'adulte, parce que protéger l'adulte, ça veut dire précisément protéger aussi la puissance de contestation, le dynamisme, protéger des êtres autonomes, responsables, bien sûr, et dotés d'expérience. C'est les fabriquer d'abord.
Pourquoi est-ce qu'il faudrait
et ensuite les protéger. Et donc cette dimension-là me paraît être un objectif extrêmement extrêmement fort. En plus, c'est pas un objectif abstrait. C'est ce que je disais mal tout à l'heure en utilisant des grands mots, la grandeur de l'humanité ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans les vies personnelles et les vies individuelles. Quand on a des enfants ou si on n'a pas d'enfants, quand on a des jeunes autour de soi, notre principal souci, c'est vraiment de les aider, de les faire accéder à leur choix existentiel. Donc c'est quelque chose qui nous nourrit au quotidien, qui est une chose quotidienne et extraordinairement enchanteresse, parce que d'une certaine façon, le sens que l'on cherche dans le ciel ou dans l'horizon, il est présent, on l'a sous les yeux, parce que nous avons des enfants à éduquer, à rendre autonomes, parce que nous avons des gens autour de nous à qui on peut donner un coup de main pour les faire entrer dans la carrière ou dans la vie professionnelle, ou les aider à trouver une bonne formation. Et j'allais dire, c'est ce sens que l'on veut trouver de manière grandiose comme jadis, il est présent sous nos yeux et dans notre vie quotidienne, il est formidablement puissant.
Anne Muxel, Pierre-Henri Tavoyot vient de décrire la façon dont la démocratie peut se renforcer à travers ces crises de croissance, devenir une démocratie non seulement pour les adultes, mais une démocratie elle-même adulte. Comment est-ce que vous voyez vous-même de votre côté la manière d'intégrer finalement la contestation externe de la démocratie, y compris par la jeunesse ou ceux qui parlent en son nom, et d'en faire plutôt un débat interne à la démocratie, quelque chose qui puisse la renforcer et non pas la fragiliser de l'extérieur?
Je pense que c'est une question très difficile. Moi, je suis plutôt optimiste, hein, donc je crois effectivement à la capacité des démocraties en difficulté à faire vivre et à rebondir et à faire vivre justement le pari démocratique qui est toujours le pari le plus difficile, mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même des signes patents de fragilisation de cette confiance démocratique, y compris dans les jeunes générations. Et là, évidemment, il faut attendre des pouvoirs politiques eux-mêmes, des paroles, des discours, des programmes politiques, les capacités de restaurer finalement ce lien de confiance qui est si important, et de le restaurer ne serait-ce qu'en proposant justement, comme je le disais tout à l'heure, une vision, une direction, une vision aussi de l'avenir, mais aussi des engagements qui puissent être tenus. Alors tout cela, évidemment, c'est facile à dire, plus qu'à faire, et surtout dans un contexte de crise multiple et de complexification croissante de nos sociétés que nous avons évoqué tout à l'heure. Mais il y a là, je crois, quelque chose qui doit aussi passer beaucoup par la parole, et donc essayer de minimiser toutes ces paroles qui entretiennent la division, les antagonismes, les formes de conflictualisation ou de polarisation des sociétés. Donc trouver une parole, mais aussi bien évidemment trouver des actions, des actes pour permettre à cette confiance si nécessaire au lien démocratique, c'est-à-dire entre la représentation et les citoyens, de pouvoir se vivre pleinement.
Alors vous aviez écrit à Muxel un livre important, l'édition de l'Aube en 2018, Politiquement jeune. Donc cette question était déjà présente avant la pandémie, avant l'émergence même de la crise climatique, au fond, justement sur les modalités de représentation de la jeunesse et de sa façon d'en tenir compte. Est-ce qu'il faut, comme pour la parité entre les genres, comme pour la représentativité, est-ce qu'il faut introduire des représentants escalité? Qui peut parler au nom de la jeunesse finalement? Et d'ailleurs, la même question se poserait pour la vieillesse finalement, puisque pour la question des retraites, on voit parfois maintenant arriver aussi ce sujet pour la question des EHPAD. Est-ce qu'il faut des représentativités générationnelles? Voilà, on pourrait le dire comme ça, Anne Muxel. Et Pierre-Henri Tavoyot, bien sûr, nous dira aussi son avis.
ce n'est bien sûr pas une mauvaise chose que de veiller à la représentation de tous, bien sûr, et à une diversité, voilà, des responsabilités, c'est vrai. Mais il faut pas non plus penser que ce soit la panacée. C'est vrai que il faut qu'il y ait plus de jeunes dans les instances politiques, dans les instances de décision, parce que ça peut effectivement faire entendre des points de vue, des préoccupations et qui ne le sont pas par d'autres plus âgés. Mais néanmoins, il faut pas croire que c'est parce qu'il y aura des jeunes que pour autant voilà, les
jeunes eux-mêmes sont divisés,
se sentiront mieux représentés ou plus à même de participer politiquement. Je crois que les jeunes peuvent aussi se mettre derrière des personnes beaucoup plus âgées. Moi, je prends par exemple les États-Unis, donc tout le succès, par exemple, de quelqu'un comme Bernie Sanders, qui était quand même assez âgé, il a réussi à entraîner derrière lui vraiment beaucoup de jeunes. Je reviens vers chez nous, par exemple, Emmanuel Macron, aujourd'hui président de la République, mais au moment de son élection, il avait 39 ans, c'était le candidat présidentiel le plus jeune. Il n'a pas eu particulièrement le vote des jeunes, qui s'est davantage reporté sur quelqu'un de plus âgé, comme par exemple Jean-Luc Mélenchon, majoritairement. Ouais, en fait, vous voyez, je crois que les jeunes, ils attendent aussi des projets, des directions, des politiques qui puissent à la fois tenir une parole, mais aussi une capacité de projection dans l'avenir.
Je crois que vous serez d'accord, Pierre-Henri Tavoyeux, avec cette idée d'une non pas d'une représentativité directe, catégorielle, même si c'est peut-être quand même important comme dans les autres domaines, mais en tout cas aussi d'une construction de projets, et de projets peut-être opposés, parce que la démocratie, c'est aussi finalement le débat. C'est pas les jeunes ou les vieux, mais c'est aussi reconstruire des débats internes à tous ces groupes.
Oui, je pense que considérer que c'est une panacée la représentation des jeunes ou des vieux, c'est vraiment une conception très très étroite de la démocratie qui consiste à dire qu'on ne vote et on ne délibère qu'en fonction de ses intérêts. Or, si on pense ça, alors il vaut mieux une bonne vieille dictature, soyons clairs. En revanche, si on considère, et c'est ça la définition de la représentation, que chaque personne vote et est élue en pensant aux autres. Par exemple, nous-mêmes, quand nous votons en pensant, en tout cas c'est comme ça que je conçois le travail de citoyen, en pensant à tous ceux qui ne veulent pas voter, qui ne peuvent pas voter, c'est-à-dire les enfants, en pensant éventuellement aux générations futures, en pensant à toute une série de personnes, ou pas de personnes d'ailleurs, ou de questions, qui n'ont pas les moyens. Donc si on considère que chacun est focalisé sur son intérêt immédiat, si les jeunes votent uniquement pour les intérêts des jeunes ou les vieux pour les intérêts des vieux, ça c'est pas du vote, c'est du lobbying. Et on sait qu'aux États-Unis, par exemple, il y a un très puissant lobby des retraités qui est très actif, mais c'est pas la démocratie, ça, c'est du lobbying. C'est tout à fait autre chose. Le vote n'est pas du lobbying. Donc je crois que c'est une grande erreur, en effet, de considérer ça comme une panacée, même si, par ailleurs, c'est toujours beaucoup plus agréable et pour le débat, et beaucoup plus enrichissant pour le débat, qu'il n'y ait pas que des personnes qui se ressemblent dans une communauté. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que la variété doit être visée.
Merci beaucoup. Le temps n'est pas seulement une affaire de génération, mais aussi de minutes. Nous sommes arrivés au bout de cette discussion que j'aimerais beaucoup prolonger dans le contexte actuel sur les jeunes et les vieux dans notre période critique. Je vous remercie infiniment l'un et l'autre. Je rappelle qu'on était dans des conditions liées à ce contexte, à distance. Et je vous remercie encore beaucoup d'avoir fait votre diagnostic, mais surtout d'avoir proposé des cadres et des solutions pour ce débat entre et avec les jeunes et les vieux dans nos démocraties d'aujourd'hui. À présent, ce soir, c'était les jeunes et les vieux, comment ne pas les opposer, débat que nous venons d'avoir avec, grâce à Anne Muxel, la directrice de recherche au CNRS et au CEVIPOF, et Pierre-Henri Tavoyeux, qui enseigne la philosophie à l'université de Paris-Sorbonne, avec, grâce aussi à Bruno Mourlan, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes,
Frédéric Vaux. Bonsoir. Thank you.